mes meilleurs vœux de paix et de santé à la République centrafricaine, aux centrafricaines et aux centrafricains d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce premier débat politique de l'année 2021. L'accord politique pour la paix et la réconciliation signé entre le gouvernement et les 14 groupes armés est-il aujourd'hui en vigueur? C'est la question principale de l'émission politique d'aujourd'hui. Le gouvernement et 14 groupes armés du pays ont signé le 6 février 2019 à Bangui l'accord politique pour la paix. Cet accord devrait permettre le désarmement et la dissolution de tous les groupes armés et surtout le redéploiement de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées. En revanche, certains leaders de ces groupes armés ou les représentants sont promus au gouvernement, à la présidence de la République et à de hautes fonctions de l'administration publique. Des voix ne cessent de dénoncer la violation flagrante ou les violations flagrantes des clauses de cet accord politique pour la paix par les groupes armés. Pas plus tard que ces dernières semaines, beaucoup d'entre eux ont renoncé pour retourner au maquis. Tout le monde se veut prudent et se contente juste de condamner l'attitude de groupes armés motivés, selon des sources officielles, par l'ancien président François Bozizé. Et c'est finalement le 31 décembre 2020, c'est-à-dire jeudi dernier, que le chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, a abrogé le décret nommant certains chefs rebelles considérés comme poids lourds, à l'exemple de Ali Darassa, Sidiki Abbas, Maxime Mokom et Mahamat Al-Khatim. Question, cet accord est-il encore valable ou utile? Peut-on aujourd'hui déclarer sa mort ou en appel de vive voix certains observateurs de la vie publique? Peut-on le corriger et continuer avec d'autres groupes armés qui y sont encore attachés? Pour en débattre, je reçois autour de cette table et dans le studio B de Radio Ndeke Luka, Karl Blagué, observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Monsieur Karl Blagué, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Radio Ndeke Luka et tous mes meilleurs voeux.
Merci. Paul Cressant Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC. Monsieur Beninga, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour aux auditeurs de la Radio Ndeke Luka et mes voeux les meilleurs à tous les Centrafricains.
Monsieur Alexis Nduyabela, conseiller politique du Premier ministre. Monsieur Ndui, bonjour.
Bonjour, cher Armando. Bonne et heureuse année aux auditeurs et auditrices de la Radio Ndeke Luka.
Et puis monsieur Olivier Nambélé, porte-parole du candidat Sylvain Patassé du Parti CAN, Centrafrique Nouvel Élan. Monsieur Nambélé, bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Au centre du débat, je suis Armando Nguendi. Je bénéficie de l'apport de Stéphane Flemalé et Claire Ndoumbéa Samba, Gabriel Trésor Yenemati assure la technique. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, ouvrons le bal avec vous, monsieur Ndui. L'accord politique pour la paix et la réconciliation est-il caduque aujourd'hui?
Doit-on dire que l'accord est politique caduque? Non. L'accord politique a été signé le 6 février 2019. Donc, dans quelques mois, ça sera, on va totaliser 2 mois. On aura vécu pendant deux ans. Alors, il y a eu beaucoup de. Il y a eu 2 ans. Il y a eu des parties prenantes. Beaucoup de parties ont apposé leur signature au bas de ce document. Donc, il y a la partie gouvernementale, les groupes armés. Et puis il y a les observateurs et les partenaires internationaux. Alors, on a constaté ces derniers temps, certains ont manifestement ont décidé de se retirer de cet accord. Mais c'est une partie des membres de cet accord qui a décidé de se retirer. Alors, donc, doit-on proclamer comment un accord arrive s'éteint? Est-ce que tout le monde a retiré sa signature? Et donc, juridiquement, vous voyez, selon un principe fondamental du droit interne, les accords légalement signés tiennent lien de loi entre les différentes parties. Sur le plan international, on dit « pacta servanda sunt ». La parole donnée, lit. Une fois qu'on a posé sa signature, on se doit de respecter. Donc, quand on ne respecte pas, on sort totalement de l'accord. Donc, il y a une partie. Hein, parmi les stipulations de cet accord de 2019, il a été spécifiquement clarifié que les membres de groupes armés ne devaient plus créer de nouveaux mouvements. Alors vous avez constaté que manifestement, en dehors, malgré cette stipulation, il y a encore un autre mouvement qui a vu le jour, qui est dénommé Convention des Patriotes pour le Changement. Donc il va manifestement à l'encontre des stipulations, ce qui a été prévu dans l'accord. Non, l'accord est encore vivace. Il y a d'autres partenaires qui sont encore là et qui ne sont pas totalement.
On va
d'accord.
Y revenir.
Il y a 14 groupes armés. Mmh. Ben, combien se sont retirés? 2 ou 3 ou 4. Donc, ce n'est pas tous les membres du groupe armé qui se sont retirés de cet accord.
Monsieur Nambélé, que dire du retrait de certains leaders de groupes armés de cet accord politique?
Alors, je vous remercie. J'ai encore à l'esprit et j'ai encore en souvenir quand le président Touadéra a prêté serment. Il a dit clairement qu'il était dans une démarche politique de rechercher la paix, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, 4 ans et demi pratiquement à la fin de son mandat, force est de constater, parce que moi qui vous parle, vous voyez, je viens d'une démarche politique où on était des centristes. On est resté centriste pendant 5 ans pour observer. Et donc aujourd'hui, pratiquement à la fin de son mandat, on se rend compte, n'est-ce pas, que la démarche politique de la recherche de la paix, pour consolider la paix dans notre pays qu'il a proposé au peuple centrafricain, il nous a dit clairement qu'il était dans une démarche où on devait le suivre, il n'était pas dans l'erreur. Et 5 ans aujourd'hui, force est de constater très humblement que le président a déclaré que nous sommes en guerre, n'est-ce pas ? Donc c'est peut-être de l'euphémisme de le dire. Aujourd'hui, quand un chef d'État déclare après 5 ans que nous sommes en guerre, alors c'est un mea culpa, n'est-ce pas ? Nous, on ne s'engage pas sur ce terrain parce que nous sommes des démocrates. Tout ce qui est lié, qui lie les gens par la force, on est contre. Mais il faudrait quand même que, très modestement, que les gens reconnaissent quand même qu'ils se sont trompés, n'est-ce pas ? L'option politique et l'option militaire ne se sont pas croisées dans ce pays, c'est pour ça qu'on en arrive là. Lorsqu'à la fin, on constate, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, on est obligé de défendre la nation, c'est qu'on s'est trompé. Donc, c'était mieux pour le chef de l'État, qui est un mathématicien, de poser le problème à l'inverse. De dire, on fait la guerre d'abord, n'est-ce pas, on met la pression et on négocie la paix. Et donc, c'est un accord qui a été signé aujourd'hui. Une partie des gens qui ont signé l'accord se sont retirés. C'est-à-dire qu'on remarque simplement... Ce qui manque dans ce pays, c'est qu'on n'aime pas en fait constater les faits. Les faits aujourd'hui, les gens qui ont signé l'accord, négocié l'accord de Khartoum et signé à Bangui, se sont retirés de cette démarche pour passer à autre chose.
Pour passer à autre chose. Voilà. On va revenir pour voir ces autres choses-là après. Monsieur Paul Cressant Beninga, que dites-vous de l'avenir de cet accord politique ?
Merci pour la question posée, Armando. Je dois dire que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le professeur Dieu et Abela, avec qui j'ai toujours eu l'occasion d'échanger, soit autour d'une table, soit par correspondance et écrit interposé. Et j'ai suivi son raisonnement qui est un raisonnement de droit. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà du droit, il faut également peut-être regarder les choses du côté politique et dans les faits. Il a donné une définition qui me paraît extrêmement intéressante. Les conventions légalement signées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mais lorsqu'il y a dénonciation, elle peut être tacite, elle peut être explicite, elle peut être par le biais d'une lettre, on saisit l'autre partie, tout comme ça peut être par le biais d'un comportement. Lorsqu'on voit comment les groupes armés aujourd'hui se comportent, ils ont manifestement dénoncé cet accord. Quand vous voyez comment le FPRC s'est comporté avec la toute dernière déclaration de Noureddine Adam, quand vous voyez Al-Khatim a dénoncé cet accord par le biais d'une lettre officielle. Et puis quand on voit comment est-ce que le mouvement 3R et dans une moindre mesure l'UPC se comporte, il est clair que l'accord a été dénoncé. Et donc on peut aller plus loin et être courageux et dire que la caducité est là. Je vais m'expliquer pourquoi. Oui, on parle aujourd'hui de 14 groupes armés, voyez-vous. Mais sur les 14 groupes armés, si on fait une cartographie de ces groupes armés, davantage leur typologie, on verra qu'il y a des groupes armés qui sont moins influents, il y a des groupes armés qui sont très influents et il y a des groupes armés qui n'existent que de nom. Et lesquels sont influents ? Ce sont ceux... notamment l'UPC, le FPRC, le MPC, le mouvement 3R et quelques mouvements branches anti-Balaka, El Mokom. Et ce sont ces groupes armés-là qui ont dénoncé cet accord, aussi bien par le biais d'une lettre officielle et par les actes qu'ils ont eu à poser. Et à partir de ce moment, on peut remettre en cause la valeur de cet accord. Ça, c'est sur le plan juridique qu'on parle là. Maintenant, dans les faits.
Oui.
Dans le fait, qu'est-ce que vaut cet accord aujourd'hui ? On se rend compte, effectivement, cet accord permet la survie d'un certain nombre de groupes armés, notamment les moins influents, qui existent et qui ont des représentants au sein du gouvernement, mais aussi de certaines personnalités politiques qui ont été à la manœuvre. Et donc, de mon point de vue, à partir de ce moment-là, j'estime qu'il faut être courageux et affirmer la mort de l'accord
pour la paix. D'accord, on va revenir pour voir comment est-ce qu'on peut prononcer la mort de ce accord de Khartoum. Voilà, monsieur Karl Leblague, vous ne cessez de critiquer les violations flagrante même de cet accord par les éléments armés. Comment expliquez-vous cette volte-face aujourd'hui ?
J'adhère à la démarche de mon frère Paul Cressant Beninga du GTC, qui a si bien développé et fait la typologie des groupes armés. Mais je vais repartir au début. Vous vous souvenez quand il y a eu les différentes délégations qui sont rendues à Khartoum pour paraffer cet accord, il y avait déjà eu des litiges. Puisque l'opposition politique et les forces vives de la nation avaient dit et avaient dénoncé qu'ils n'ont pas été associés à cette démarche. C'était purement une démarche entre le gouvernement et les groupes politico-militaires. Ça, c'est un de deux, à peine 6 mois après la signature de cet accord à Bangui. Donc, accord paraffé à Khartoum et signé à Bangui. En moins de 6 mois, il y a eu déjà les violations, les premières violations de cet accord par les groupes armés. L'opposition et les forces vives de la nation se sont levés pour dénoncer la violation justement de cet accord. Il y a eu un certain laxisme de la part du Premier ministre. Et entre-temps, le Premier ministre a fait venir justement les signataires de cet accord à Bangui. Ça a créé une polémique parce qu'il a tenu un huis clos avec les principaux leaders des groupes les plus influents. Des groupes qui ont violé l'accord, qui ont perpétré des meurtres, des pillages et qui ont quitté leur zone de juridiction, qui ont eu à occuper de nouvelles zones. En violation de l'accord de paix, l'accord politique de paix. Mais qu'est-ce que le Premier ministre avait dit ? Il a dit non, je ne peux pas arrêter ces leaders-là. Ce sont les partenaires. Les groupes armés sont les partenaires du gouvernement centrafricain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était le Premier ministre chef du gouvernement qui l'a affirmé. Et moi, je m'étonne aujourd'hui...
Peut-être qu'il parle de partenaires dans le sens de faire la paix.
Non, écoutez Armando, 6, 7, 8 mois après la signature de cet accord, on a constaté, tout le monde a constaté les premières violations de cet accord-là. Que ce soit à Bambari, à Bokolobo, dans le Mbomou, tout le monde a vu, tout le monde a su les exactions que l'UPC commettait. Mais on a senti une certaine indifférence et du gouvernement et des garants et des facilitateurs, notamment la MINUSCA, qui a fait preuve d'un laxisme vraiment patent.
Oui, je vois M. Ndiouyabela, vous voulez réagir rapidement
En fait, comme vous dites, il faut discuter, parler politique, faire attention aux déclarations. C'est bien beau d'accuser, dire qu'il y a eu un laxisme de la part du gouvernement. Et tout à l'heure, j'écoutais mon confrère dire que donc, le chef de l'État aurait dû peut-être prendre les choses à l'envers. Commencer par faire la guerre d'abord au groupe armé avant de négocier. Ah, mais je ne sais pas, est-ce que peut-être vous avez oublié que le chef de l'État a hérité d'une situation quand même très dramatique, très chaotique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai lu le journaux édité par même les militaires eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils disent dans ce document Tatene Info. Je l'ai lu moi-même. Et puis c'est rédigé par nos soldats. Le chef de l'État, il n'est pas militaire par formation. Vous dites qu'il est mathématicien. C'est un professeur. Il a hérité, selon ce que moi j'ai lu, 400 hommes au sortir de la transition. Lorsqu'il a prêté serment, 400 hommes avec 47 Kalachnikov. Vous allez me dire qu'avec 47 Kalachnikov et 400 hommes, le chef de l'État devait déclarer la guerre au groupe armé.
Ça vous parlait du début, là,
début de son quinquennat. On parle du début de son quinquennat. Il devait faire la guerre ? Non. Il avait donc pour mission, et donc dans sa profession de foi, il avait pour mandat de reconstruire. Il y avait quelque chose à reconstruire. Et c'est ce qu'il a fait. Il faut reconstruire progressivement l'armée. Et puis au jour d'aujourd'hui, on sait que de 400, on est passé à au moins 4000 soldats qui sont formés, qui sont là. Mais maintenant encore, vous savez, il ne faut pas oublier qu'on est encore sous embargo. On est sous embargo, il n'y a pas de matériel. Bon, alors, grâce à la force de la Russie, et puis bon, les forces multinationales, il faudra se dire, quand tout, il ne faut pas jeter de l'anapène et incriminer immédiatement la communauté internationale. La communauté internationale travaille au ministère, je ne sais pas, je le dis également, sous le contrôle de Beninga, qui est là, qui connaît et qui maîtrise très bien. Il se réunit régulièrement avec ses partenaires-là. Est-ce qu'ils sont venus en Centrafrique faire la guerre ? Non. C'est les Nations Unies, et puis ils ont doté d'un mandat robuste pour protéger. Alors, l'existence d'un accord, est-ce que ça signifie la non-violation de cet accord ? Même tout texte juridique, même vous et moi, nous violons régulièrement les règles de droit positif centrafricain. Déjà même là, vous arrivez à un passage clôté, ce n'est pas votre tour, c'est au rouge, un centrafricain fonce alors que ce n'est pas son tour de passer. C'est la violation. Donc les textes existent, c'est parce qu'on a violé l'accord qu'on va dire que
cela n'existe pas. Mais lorsque ce texte existe, donc on viole, mais il faut sanctionner.
Quand on viole, il faut sanctionner. Et donc là, ouais, le chef de l'État, on est en terrain politique, il a privilégié la négociation. Et c'est la démarche que privilégient également les partenaires. Quand il y a conflit, il faut beaucoup plus que la négociation. Et c'est ce qu'il a fait depuis un certain temps. Il ne pouvait pas. Avec les 400, comment il pouvait faire ? Il faudrait négocier avec ceux qui sont. Ouais, n'oublions pas qu'ils sont solidement et très, très bien armés.
Merci beaucoup, monsieur Ndjoui. Vous avez épuisé votre temps. Oui, monsieur Paul Cresson Beniga, je vous vois réagir.
Bon, je n'ai pas encore conclu mon intervention. Bon,
vous voulez non, mais puisque vous avez dépassé deux minutes, je vous donne
quelques
secondes.
Alors, on a une tranche d'intervention ?
Oui,
on a deux minutes.
Oui, je reviendrai. Ok, d'accord. Allez-y, je vous donne quelques secondes.
Puisque là, j'ai.
Puisque c'est un débat, il faut qu'on respecte le timing.
Ok, d'accord. Bon, ben bon, mon tour est passé.
Monsieur Beniga, j'entends autour de la table dire que c'est pas parce qu'on a dénoncé l'accord que l'accord n'existe pas. Mais ce que nous devons reconnaître aussi, c'est que les groupes armés se sont comportés comme si cet accord n'a jamais existé. Dès le départ, je vous donne des exemples simples. Quelqu'un parle de 6 mois, 8 mois après les élections. Mais non, après cet accord, lorsqu'on a mis le premier gouvernement en place, il y avait déjà eu des comportements qui laissent penser que les gens ne sont pas dans cet accord-là. Il fallait déployer, il fallait amener les gens à Addis Abeba, renégocier l'accord. Les gens sont revenus. Quelques mois après, il y a eu des tueries à Lemouna, à Koundili, par le mouvement 3R. Le professeur Ndou, il a dit ici, il a parlé des sanctions. Aucune sanction n'a été prise. Des menaces ont été bandies, mais aucune sanction n'a été prise. Bambouti, en temps normal, Bambouti ne devrait plus être envahi par l'UPC. L'UPC a envahi Bambouti, a tenté même de prendre Obo. Aucune sanction n'a été prise. Alors donc, vous voyez, il y a le comportement de ces groupes armés qui laisse penser que pour eux, cet accord n'a jamais existé. C'est le gouvernement qui, à un moment donné, a voulu toujours s'entêter pour maintenir cet accord-là. Mais aujourd'hui, même lorsqu'on voit le comportement du gouvernement, on se rend bel et bien compte que l'accord n'existe plus. L'accord est presque caduque. Je m'explique très rapidement. Et je me réjouis lorsqu'on décide de licencier Ali Darassa, Sidiki, parce que depuis le début de cet accord, j'ai pris position clairement, ça m'a même valu la prison. J'ai pris position clairement pour dire que cet accord-là, on ne peut pas signer un accord avec ces groupes armés et les nommer dans nos gouvernements, dans les cabinets, à la présidence et à la primature. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé, le chef de l'État a décidé de limoger Ali Darassa, Sidiki et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en même temps, il y a une dénonciation partielle de cet accord-là, parce que c'est par le biais de cet accord-là que ces personnes citées ont été nommées. Lorsqu'on décide de les limoger, ça veut dire qu'il y a une dénonciation partielle de cet accord. Alors, ne faisons pas les choses à moitié. Soyons courageux, allons plus loin, dénoncez cet accord-là. Et maintenant, on fait la guerre à ces bandits, parce que la situation n'a que trop duré.
Et donc, lorsque vous parlez de faire la guerre à ces bandits, Monsieur Nambélé, tout à l'heure, vous avez également paraphrasé le discours du président de la République qui parle de la République qui est en guerre. Et vous avez dit, en tant que mathématicien, il devait voir les choses à l'inverse. Comment ?
Alors, moi, je ne suis pas dans une démarche de faire ce qu'on appelle le culte de personnalité. Hein. Le fait de dire que le chef de l'État, c'est un mathématicien, ce n'est pas lui manquer du respect, n'est-ce pas ? Si vous voulez, je viens d'une logique politique, d'un combat politique, n'est-ce pas ? Je vais citer ici le président Félix Patassé, où on a soutenu en 93 pour la lutte de la démocratie dans ce pays. Donc, faire le culte de la personnalité, ça ne fait pas partie de ma démarche. Je n'ai pas manqué du respect au chef de l'État en disant ça. J'ai dit simplement qu'il nous a donné une orientation politique, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, 4 ans et demi, on se rend compte que sa démarche politique a posé problème dans le pays. Nous avons la Centrafrique en partage. Aujourd'hui, vous voyez, le pays est dans une situation difficile. En patriote, nous venons débattre. Donc, on peut se permettre de dire que le chef de l'État s'est trompé dans sa démarche politique. Il y a un officier qui l'a dit, un officier supérieur, un ancien chef d'État-major, qui nous a dit ici que l'option militaire et l'option politique du chef de l'État ne se concordaient pas. Voilà pourquoi il s'est retiré. Donc, dire cela, c'est pas faire offense à quelqu'un. Maintenant, la résurgence des groupes armés dans le pays qui se sont mis en CPC, n'est-ce pas ? Je pense que c'est ça le nouveau sigle. Nous constatons cela en tant que politique. Et donc, nous disons qu'il est important de remarquer et de dire clairement qu'aujourd'hui, l'accord ne tient plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est de la responsabilité des gouvernants de nous orienter, c'est ce qu'il faut faire, de dialoguer. Vous voyez, on entend aujourd'hui des propos guerriers, les gens disent qu'ils veulent combattre, mais la question c'est de dialoguer. Dans un pays, lorsque le dialogue est rompu, on en arrive à cette situation. Mais moi je parle vraiment sous langue politique, ok ? Donc c'est à eux de constater cela. Et nous aujourd'hui, nous constatons, Centrafrique Nouvel Élan, nous sommes des centristes. Notre rôle, c'est de dire, voilà, aujourd'hui quelque chose n'a pas marché.
Il faut corriger.
C'est de la responsabilité du chef de l'État de corriger. Voilà, que de tenir des propos aujourd'hui qui font peur à la nation.
Voilà, monsieur Karl Blaguet, selon vous, qu'est-ce qui explique ce retrait des groupes armés des cadres de l'accord politique ? Est-ce parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause lorsqu'ils ont été nommés par rapport à leur position lorsqu'ils étaient encore au maquis ?
Très bonne question, Armando, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, je n'ai fait qu'observer depuis le début de la signature de cet accord. Il n'y avait pas un processus coercitif. C'est-à-dire, malgré que la MINUSCA, qui faisait partie des garants et facilitateurs, disposait d'un mandat robuste sous le chapitre 7, la MINUSCA a fait preuve de laxisme. Je pèse mes mots. Il y a eu plusieurs violations, il y a eu des tueries, il y a eu des déplacements de population. La MINUSCA n'a rien fait. Jusqu'au jour où le premier chef du gouvernement avait convoqué les leaders signataires de l'accord politique de paix et de réconciliation qui sont venus à Bangui. Et après, il y a eu un huis clos. Ça, je pense que ça n'a pas plu à l'opinion nationale et encore moins aux forces vives de la nation. Le Premier ministre a tenu une conférence de presse qui avait dit que non, les groupes armés sont les partenaires du gouvernement, donc il faut privilégier la concertation. Ils ont continué à privilégier la concertation. Mais vous savez, on a assisté à ce qu'on appelle la territorialisation de ces groupes.
Dans une première phase, ces groupes n'aspiraient pas à conquérir le pouvoir politique à Bangui. Chacun se battait pour contrôler des zones en richesse naturelle et au niveau du sous-sol. Mais petit à petit, il y a eu une nouvelle donnée, comme vous l'avez si bien dit dans votre propos liminaire. Les choses ont changé et vous avez dit tout à l'heure que les groupes se sont coalisés. Donc, nous quittons cet aspect de territorialisation pour rentrer dans un aspect purement politique, c'est-à-dire aller jusqu'à des velléités de déstabilisation des institutions de la République, ce qui est extrêmement dangereux. Donc, moi, je me retourne toujours vers le premier chef du gouvernement qui a effectivement mené à bien ces négociations qui ont abouti justement à la signature de cet accord et qui a toujours mis en avant le dialogue et la concertation. Mais il a fait preuve de laxisme, il y a eu une certaine situation de pourrissement qui a fait que non seulement les groupes armés se sont imposés, ont renforcé leur territorialisation, et maintenant ces mêmes groupes armés qui sont les partenaires du gouvernement se sont coalisés dans le but justement de déstabiliser les institutions de la République. Nous avons tous lu le communiqué de la CPC, un communiqué extrêmement hostile et qui sort du cadre de l'accord politique de paix et de réconciliation.
Merci beaucoup M. Ndouyabela. Aujourd'hui, au regard de cette situation sur le terrain, comment expliquez-vous ce retrait des groupes armés? Quelles sont leurs intentions vis-à-vis du pouvoir actuel? Ils sont nommés pour faire la paix, mais après ils se sont retirés de cet accord. Ils reprennent d'ailleurs le contrôle de ces zones dont ils contrôle.
Non, mais en tout cas, il faut leur poser la question. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils se sont retirés de l'accord. Ils ont signé un accord, il y a une négociation, tout le monde s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Alors, pour quelles raisons? Il faut leur poser la question. Alors, est-ce qu'ils ont suivi un peu la démarche de certains hommes politiques qui revendiquent la concertation nationale avant les élections? Alors, on le comprend. Bah,
ils sont... à travers leurs faits sur le terrain, les pratiques, on peut déjà dégager une idée de cette intention.
Vous voyez, l'accord a été signé. Il y a tout un processus qui est engagé. Le chef d'État se devait de respecter, enfin le gouvernement a respecté, si vous voulez qu'on décortique un peu là, a respecté son engagement. Au départ, comme certains l'ont répondu, s'il fallait mettre en place un gouvernement, est-ce que ça, le gouvernement ne l'a pas respecté? Ça faisait partie des stipulations de l'accord. Mettre en place un gouvernement inclusif. Vous savez que dans les démocraties modernes, lorsqu'un leader gagne un parti politique, enfin gagne les élections, mais il gouverne avec les siens. Si nous donnons l'exemple de certains de nos pays, enfin, que nous démontons, la France, vous savez, c'est la gauche qui gagne les élections. Mais il n'y a qu'un gouvernement de gauche qui est formé uniquement avec les cadres de gauche. On n'a jamais dit, bon, je suis de gauche et puis j'ouvre un peu au de droite, etc. Non, ce n'est pas ça. Or, ici, vous voyez, manifestement, le chef de l'État, lui, bon, on ne fait pas de culte de personnalité, on dit ce qui est. Ça, en tout cas, je vais en profiter pour dire à mon frère que ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal. Même le fait d'avoir le chef de l'État mathématicien, ce n'est pas mauvais. On l'a dans un débat, ce n'est pas le culte de personnalité. Vous dites ce que vous pensez, et puis moi, je suis libre également d'interpréter ce que vous dites. Mais ça n'a strictement à rien dire que vous êtes en train d'afficher quelqu'un qui ne respecte pas le chef de l'État. Alors, vous voyez, au-delà, vous voyez, le chef de l'État qui, normalement, avait gagné les élections, lui tout seul avec ses candidats indépendants. Bon. Il aurait pu construire un gouvernement uniquement avec les siens.
C'était difficile.
Et donc, politiquement, par rapport au contexte, il y a encore là. Vous voyez, moi, je suis contre les gens qui pensent qu'il y en a qui ont le monopole de faire la politique. Tout le monde, l'homme est un animal politique et par définition, tout le monde fait la politique. S'il y en a qui disent, non, c'est nous qui sommes spécialistes de la politique, non. Alors donc, vous voyez, donc, il a mis en place, donc il a respecté sa part des engagements prévus. Bon, vous voyez, on fait des concessions, il fallait faire c'est des concessions que le chef de l'État fait depuis ce temps. C'est des concessions pour privilégier avant plutôt que de verser, engager la guerre, verser encore beaucoup plus le sang de Centrafricains. Le chef de l'État n'a pas opté pour la solution militaire. Bon, maintenant,
comme la situation.
Mais dans la situation, il s'est quand même ragaillardi, entouré de toutes, assuré ses arrières. Il a pris, de mon point de vue, avec le premier chef du gouvernement, des mesures de rétorsion. Ça s'appelle mesure de rétorsion.
D'accord,
merci. L'accord, chacun devait respecter. Oui. Moi, j'ai respecté. Ah, si vous ne continuez pas, bon, je prends des mesures de. Et donc, vous avez suivi des mesures de. On appelle ça des contre-mesures.
D'accord, des contre-mesures. Des contre-mesures.
Du côté du gouvernement vis-à-vis du comportement irresponsable.
Des contre-mesures, comme vous l'avez dit, M. Paul Cressambé. Contre-mesure du chef de l'État, mais aussi les intentions des groupes armés qui cachent derrière ce retrait.
Alors, les intentions des groupes armés, non, je pense que la question, elle est simple de mon point de vue. Et je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Voyez-vous, lorsqu'on parle du retrait des groupes armés, je vous ai dit, ils se sont comportés comme s'ils ne sont jamais membres, ils ne sont jamais signataires de cet accord. Lorsque ça les arrange, ils évoquent cet accord, mais lorsque ça ne les arrange pas, ils se comportent comme s'ils ne sont jamais signataires. Maintenant qu'ils se sont retirés, pourquoi est-ce qu'ils sont retirés? Les raisons sont multiples, mais j'en évoquerai deux ou trois. La première, vous savez, nous sommes aujourd'hui en face... Nous avons affaire à des mercenaires. Les mercenaires s'offrent, passez-moi la tautologie, au plus offrant. Ce n'est pas surprenant aujourd'hui qu'on décide de remobiliser tous ces mercenaires parce qu'ils sont payés. Et ils sont dans ce que Debos qualifie de métier de la guerre. c'est des gens qui ne vivent que lorsqu'il y a guerre. Il y a la guerre quelque part. Et aujourd'hui, quand vous prenez, vous faites le profil d'un acteur comme Ali Darassa, qui a beaucoup travaillé avec Babalade. Vous faites le profil d'un acteur comme Sidiki et comme l'autre, comme Al-Khatim, qui a été avec Bouzézé en 2002-2003. C'est des gens qui ne font que la guerre. Et c'est quand il y a la guerre qu'ils vivent bien, parce qu'il y a de l'argent qui circule. Et donc, c'est facile de les remobiliser. Ça, c'est d'un. De deux, ne nous leurrons pas le visage. Aujourd'hui, la RCA est un terrain d'une guerre quasiment froide. La RCA aujourd'hui rentre dans une guerre qui est en partie une guerre par procuration. Une guerre où on voit certaines puissances agir. Les gens ne veulent pas le faire, mais moi je suis un chercheur, je le dirais. Vous voyez certaines puissances agir. Quand vous voyez la présence rwandaise sur le terrain, vous voyez la présence russe sur le terrain, dans une moindre mesure la présence française sur le terrain, ça dit tout. On ne peut pas éluder cet aspect-là. Dernière chose à souligner, les groupes armés se sont retirés de l'accord de Khartoum. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a également des Centrafricains qui rentrent en intelligence avec ces groupes armés. Et c'est pourquoi généralement dans mes sorties, je dis, il faut une dose du patriotisme dans ce pays. On peut être en désaccord avec tout, avec la gouvernance de Touadéra. Moi le premier, je suis en total désaccord avec la gouvernance du Touadéra. Mais je ne peux pas cautionner que des groupes armés viennent saper les fondements de nos institutions. Et je finirai par là. C'est là où j'ai interpellé nos politiques. Et je ne cesserai jamais d'interpeller nos politiques. La position de certains politiques centrafricains n'est pas du tout claire. Il faut avoir une position tranchée vis-à-vis aussi bien de la gouvernance de Touadéra, mais aussi de la CPC.
Ça, le chef de l'État en a mentionné du silence inquiétant de
sceptiques. Tant mieux.
Voilà, pour cette raison, le chef de l'État, Faustin Kantouadéra, a dévoilé les intentions de ces groupes armés. Il a dit à l'occasion des vœux du nouvel an à la nation. Nous l'écoutons.
J'ai le pénible devoir de vous dire que nous sommes en guerre. La République est en guerre. Sa survie est menacée. Cette guerre asymétrique, nous devons la gagner. Et pour la gagner, nous devons tous, dans un élan patriotique, soutenir et encourager nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la MINUSCA, les forces spéciales russes et rwandaises. Comme vous le savez, à la tête de cette association de malfaiteurs qui vient de manquer une énième tentative de coup d'État, se trouve l'ancien président François Bozizé, appuyé par ses alliés politiques. Les attaques coordonnées déclenché à quelques jours des élections présidentielles et législatives, avait pour but de renverser les institutions de la République et de mettre fin au processus démocratique en vue d'instaurer une énième transition, un autre régime de prédation.
Voilà, vous venez là de suivre le chef de l'État, Faustin Kantouadéra, et c'est dans le débat politique. Il a pu dévoiler les intentions de ces groupes armés. Quel commentaire, M. Carles Blague, faites-vous de cet extrait du discours du chef de l'État?
Oui, Armando, je suis très content que le chef de l'État se rende compte maintenant que la République est en guerre et qu'il a décidé de prendre des mesures pour combattre ces groupes armés entre-temps signataires et de l'accord politique de paix et de réconciliation. Ce que l'opinion publique et les forces vives lui avaient toujours demandé, mais comme il a privilégié le dialogue, et effectivement il a eu des prétextes, des justifications, comme quoi la RCA était sous embargo, l'armée était encore une armée jeune, en pleine formation, on n'avait pas encore justement des fantassins aguerris. Il a mis tous ces éléments en avant, mais la situation, vu la pertinence de la situation et les enjeux électoraux, il était obligé de prendre certaines responsabilités. Il a mentionné encore un détail. Il a parlé d'un silence bizarre, un silence coupable de l'opposition politique, apparemment qui n'a pas su dénoncer de manière ferme les agissements des groupes armés dans leur processus ou leur velléité de déstabilisation des institutions de la République. Bon, ça, je pense qu'il doit disposer de certaines informations pour en arriver là. Mais je pense que de mon avis, on peut ne pas être d'avis avec le gouvernement, mais on peut justement le combattre sur le terrain politique en tant que démocrate. Parce que le fait d'associer des mercenaires dans tout ce processus, on ne peut pas connaître les tenants et les aboutissants. On peut savoir quand est-ce une guerre commence, surtout ce genre de guerre, une guerre asymétrique, mais on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle pourra finir, quelles que soient toutes les forces extérieures engagées sur le territoire. C'est extrêmement pertinent, Armand.
Monsieur Benenga, vous ne cessez de condamner cette manière de prendre le pouvoir par la force, par un coup d'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, tant que garant de la sécurité de tous les Centrafricains, a su comprendre rapidement les intentions de ces groupes armés. Ça veut dire que ça rencontre ce que vous ne cessez de critiquer.
Oui, enfin, depuis 2 ou 3 jours, j'ai comme l'impression que le chef d'État également lit les déclarations du GTSC, dont je porte la parole, parce que nous avons demandé pendant à plusieurs reprises que les leaders de ces groupes armés soient limogés. Ça a été fait, mieux vaut tard que jamais. Nous avons également condamné la latitude de certains partis politiques, notamment de certains responsables de l'opposition et des personnalités politiques. Ça a été dit. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin.
Oui,
parce que
allez-y.
La guerre ne se décrète pas. La guerre ne se décrète pas. Il faut faire la guerre. Aujourd'hui, j'entends le représentant du parti, M. Nambélé, Kan, dire ici qu'il faut aller au dialogue. Moi, je pense que toutes les options doivent être mises sur la table. Aussi bien la guerre, le dialogue. Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, j'ai comme impression, et l'impression qui se dégage, c'est que pour se faire de la place dans ce pays, il faut aller en rébellion. Et ça, la responsabilité incombe à tous nos politiques, le président Ouattara y compris. Nous étions contre la promotion de certaines personnes dans le gouvernement simplement parce que ils ont pris les armes. Aujourd'hui, ceux qui viennent, quand on ira aux négociations, c'est le discours qu'ils vont tenir et c'est ce qu'ils vont réclamer. Ils iront comme si aujourd'hui la rébellion est devenue une entreprise. C'est extrêmement dangereux. Maintenant, je finis par ce que Karl a dit et c'est extrêmement important. Vous savez, les enjeux de cette guerre sont tels que si on ne fait pas attention, on ira vers la somalisation de la République centrafricaine. De part et d'autre, je pèse mes mots, je dis de part et d'autre, que ce soit de la part du gouvernement, que ce soit de la part des groupes armés, on fait venir des contingents, des gens dont on ne maîtrise plus les ambitions. Même au sein de la CPC, il faut que les gens le sachent. Les ambitions ne sont pas les mêmes. Ali Daras a une ambition, c'est celle de créer une république dans la République centrafricaine. Ce n'est pas la même ambition que Sidibé, ce n'est pas la même ambition que Al-Khatib. Et à un moment donné, cette coalition, qui est de mon point de vue une coalition contre nature, va s'éclater. Et l'éclatement, prenez date de ce que je dis, l'éclatement de cette coalition va nous amener droit au mur. Aujourd'hui, de l'autre côté, nous avons la présence des forces rwandaises. Mais sur le plan géopolitique et géostratégique, quand vous regardez, suivez mon regard, quand vous regardez autour de la sous-région Afrique centrale, c'est une présence qui n'est pas très bien appréciée. Ça ferait intervenir certains acteurs externe au conflit centrafricain et ça peut davantage enliser le conflit si on ne fait pas attention.
Oui, monsieur Alexis Nduyabela, sur les propos de cet extrait du discours du président de la République.
Non, mais il a tout à fait raison.
La République est en guerre.
La République, il l'a dit. Hein, donc, il a tout à fait raison de le dire. Hein, à l'approche des élections, vous voyez, certains compatriotes ont pris nos armes pour empêcher même le centrafricain d'aller exprimer son droit le plus absolu, exprimer sa souveraineté, désigner ses représentants. Lorsqu'on organise ces élections, que le peuple devait aller choisir ses dirigeants, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on devait prendre les armes pour empêcher? Et puis bon, la guerre a été déclarée à la République centrafricaine et le chef d'État. Et face à cette situation, tous les centrafricains, même de n'importe quel bord politique, on devait former ce qu'on appelle une union sacrée pour condamner. C'est unanimement cet acte posé par les responsables de la convention des patriotes pour le changement devait être condamné par tous les centrafricains. Vous avez tout, la société civile a fait une déclaration, l'université de Bangui, les femmes, etc. Et donc, voilà. Mais sauf certains leaders de parti, ceux qui disent qu'ils sont des spécialistes de la police, des professionnels, encore eux, des professionnels, se sont abstenus de faire des déclarations tendant à condamner de tels actes-là. Donc, la République, nous, on le connaît. Ce qu'il a dit tout à l'heure, rappelé à combat géopolitique, bon, un proverbe de l'Afrique de l'Ouest, si le rat se permet d'insulter le buffle, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui donne du courage. Est-ce qu'un rat peut insulter le buffle? Parce que d'un coup de patte ou un élévant, c'est pour dire quoi? L'État qui a le monopole de la violence légitime. Il se retrouve que en République centrafricaine, bon, certains se permettent d'exercer encore de la violence. Or, le monopole, il y en a des personnes, des groupes armés qui défient le gouvernement, un gouvernement légitime armé, c'est que l'État est sous embargo. Comment se fait-il que des groupes armés se réarment?
Le chef de l'État a coup d'État en cours parce que c'est ça, l'intention réelle de ces groupes armés.
L'intention, mais c'est de empêcher, ils l'ont dit, moi je l'ai lu, ils ont dit, c'est pour boycotter les élections qui étaient organisées sur le territoire centrafricain. C'est un vieux débat, ça a commencé depuis. Il fallait aller, bon, c'est la revendication permanente de tout le monde, aller à une concertation pour dire quoi. Et puis le chef de l'État, il y a eu la présence d'esprit en temps opportun de poser le problème. On est en train de se préparer pour aller aux élections. Bon, il y a certains groupes qui sollicitent une concertation avant les élections. Mais quelle sera la thématique de cette concertation? C'est ça le problème qu'il a dit. Le chef de l'État l'a dit lui-même lors d'une réunion. Oui. Je n'ai pas peur
monsieur,
de débat.
Monsieur Ndou,
je partage, je suis prêt à faire un débat, mais on va débattre sur quel thème? C'est ça le problème.
On va y revenir.
C'est donc s'il y avait une thématique à débattre, là, on dit oui à la concertation.
Vous avez terminé votre temps.
Mais chaque fois que j'ai la parole, je termine votre temps avant. Vous n'arrêtez pas les autres.
Le chrono est en marche parce que si vous dépassez.
C'est moi qui parle plus que les autres.
Oui, si vous dépassez, au lieu de 2 minutes, vous avez fait 2 minutes 30 secondes. Monsieur Nambéry.
Mais vous n'avez pas le prix, vous ne l'arrêtez pas.
Non, parce qu'il a respecté le temps et moi je contrôle le chrono ici. Monsieur Yambele, sur les intentions des groupes armés aujourd'hui, c'est de prendre le pouvoir, c'est ce que le chef de l'État en a mentionné dans son discours. Mais il y a aussi des prémices de ces intentions-là. Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement a pris du temps longtemps et que nous sommes arrivés à ce niveau?
Bon, vous savez, il y a un problème dans ce pays, c'est ce qu'on appelle le problème de monitoring. On n'arrive pas à surveiller notre pays, on n'arrive pas à surveiller les élections, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé, les événements qui s'est passé, nos amis de la MINUSCA, n'est-ce pas, qui sont venus pour stabiliser notre pays, ils ont eu un gros mandat pour surveiller les élections, n'est-ce pas? Donc ils devaient faire du monitoring électoral, de la surveillance par rapport au gros mandat sécuritaire qu'ils ont reçu. Mais bizarrement, les groupes armés se sont quand même reconstitués et ils ont occupé une partie de territoire. C'est de la responsabilité de qui? En Centrafrique, il est difficile de pointer les gens, de dire voilà, voici les responsables. Qui a fait le lit de cette situation? Voilà le problème en Centrafrique. Et quand on se permet de dire ça, les va-t-en-guerre, n'est-ce pas, qui estiment aujourd'hui défendre des intérêts catégoriels personnels, estiment qu'on n'a pas le droit de critiquer. Parce que vous voyez, nous, à l'époque, le président Félix Patassé, qui a subi les mutineries, les rébellions jusqu'au renversement du 15 mars, a toujours dialogué. Donc aujourd'hui, ceux qui conseillent le président Touadéra, qui estime qu'il doit aller en guerre absolument sans de l'autre partie discuter, pourquoi l'accord de Khartoum signé à Bangui a été un échec? C'est parce qu'il n'a pas embarqué la classe politique. Cette classe politique aujourd'hui qui est critiquée, n'est-ce pas? Il ne les a pas embarqués dans les négociations. C'est ça en fait qui pose problème aujourd'hui.
Monsieur Karl Blague, sur les intentions réelles de ces groupes armés qui, selon le président de la République, voudraient marcher sur Bangui, est-ce qu'aujourd'hui on a attendu longtemps pour mettre fin à ces intentions?
Oui, Armando, je pense que les velléités de déstabilisation du processus électoral ont commencé il y a de cela quelques mois. Il y a de cela 2 mois, je pense, pour demander à une concertation préalable à l'organisation des élections et si possible un report des élections. C'était la revendication principale des groupes armés coalisés dont la CPC. Mais avant ça, il y avait déjà certaines hostilités que les groupes armés avaient déjà organisées sur toute l'étendue du territoire. Et les forces vives de la nation n'ont cessé de dénoncer et d'attirer l'attention.
Et ça, on devait le constater à temps.
Et riposter. Mais je pense que dans l'accord de Khartoum, on a prévu des mécanismes coercitifs. Le mandat lourd, là, robuste. Sous chapitre 7, il faut frapper. On impose la paix. La MINUSCA a l'obligation d'imposer la paix. Mais c'est vraiment scandaleux quand on suit les témoignages que dans certaines zones, des éléments FACA ou des représentants légaux de l'État sont obligés de sauter, d'escalader les murs et de se réfugier dans l'enceinte de la MINUSCA qui reste en tant qu'observateur, regarder la population se faire massacrer ou les maisons être brûlées. Non, c'est extrêmement scandaleux. Mais quel est le mandat robuste? La MINUSCA est comme facilitateur et garant de l'accord politique de paix et de réconciliation. Mais la MINUSCA croise les bras et on laisse nos éléments FACA en déroute. Ce n'est pas normal. Je pense que le Premier ministre et la MINUSCA auraient dû prendre leurs responsabilités et d'abord cantonner ces groupes armés. On a négligé ce cantonnement-là. Comment voulez-vous parler de paix et de désarmement des groupes sans pouvoir autant les cantonner, contrôler leur matériel, leur nombre, les identifier? On les a laissés se déplacer d'une préfecture à une sous-préfecture. Et voilà, il y a eu une certaine opacité concernant leur mouvement et leur armement.
Aujourd'hui, M. Beniga, leurs intentions sont connues de tous, comme a dit le chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Je ne pense pas que nous avons la même appréhension de la situation. Dire que l'intention des groupes armés ne se limite ou ne consiste qu'à faire échec au processus électoral, je pense que c'est une vue qui est partielle. L'appétit vient en mangeant et il faut s'intéresser toujours aux acteurs qui sont à la commande. Voyez-vous qu'on peut quitter Batangafo, Buka, Bosangwa, Kamakota, Baboua, Boda et autres pour faire simplement échec au processus électoral et s'arrêter à ce niveau, je ne pense pas.
Mais le chef de l'État l'a mentionné dans son discours,
oui, alors,
pour prendre le pouvoir.
Oui, l'intention c'est de s'emparer du pouvoir et donc à partir de ce moment, il faut se comporter conséquemment. Je voudrais également revenir sur un autre aspect. Lorsque le professeur Ndui rappelle les propos du président de la République en disant qu'il n'y a pas matière à discussion, non. Effectivement, c'est une erreur. Dire qu'il n'y a pas matière à discussion, ça nous plonge dans le chaos. Le dialogue doit être permanent dans une République. Et donc, lorsque il y a a crépitement d'armes, lorsqu'il y a des voix qui sont discordantes et dissonantes, à un moment donné, il faut se réunir autour d'une table et en parler. C'est pourquoi je le dis souvent que le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. Dialoguer, en rêvant, ça grandit l'homme, ça grandit l'auteur. Et le dernier aspect, c'est la question effectivement de la ministre qui a été évoquée ici. Non, avouons-le, le plan de la sécurisation des élections a été un échec. On ne peut pas organiser les élections à Karno, on ne peut pas organiser les élections à Bokaranga, à Baoro, et le lendemain on vient s'emparer, le soir et le lendemain on vient s'emparer des urnes. À partir de ce moment, ça a été un échec. Maintenant, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, il ne faut pas écarter une option. Il faut mettre toutes les options sur la table et en débattre. Le dialogue, la guerre, il ne faut pas écarter une option. Et lorsque le pays brûle, dans une république normale, l'affaire n'est plus une affaire du gouvernement, c'est l'affaire de toutes les forces vives de la nation. Il faut réunir les dynamiques et penser la chose dans une dynamique d'ensemble, pas seulement la tautologie. Ça permet d'apporter une réponse globale à la situation qui se présente à nous.
Oui, vous voulez répondre 30 secondes, je vous en prie.
Non, le chef de l'État a tiré toutes les conséquences. C'est une politique qu'il a mise en avant. Et maintenant, avec les faits qui se sont produits sur le terrain, il va en tirer toutes les leçons. Et des leçons qui commencent à tirer, il y a des décisions qui commencent déjà à tomber. J'ai parlé tout à l'heure, c'est des mesures de rétorsion. Mesures de rétorsion, il ne veut pas respecter l'accord. Bon, il a tendu la main pendant longtemps, parce qu'il y en a qui ont dit que la force étend la main, bon, on risque de couper même la main. Il a tendu pendant longtemps. Maintenant, il commence à retirer progressivement sa main. Et donc, des décisions encore, il y aura encore d'autres solutions. D'autres solutions qui seront mises en avant et vont prôner par le.
Nous allons une fois de plus écouter l'extrait du discours du président de la République, Faustin Kantouadéra. Le chef de l'État s'est montré ferme face à ses détracteurs.
La justice nationale et internationale doit s'exercer avec fermeté et sincérité à l'encontre des auteurs, co-auteurs, complices et commanditaires de ces nouveaux crimes commis contre le peuple centrafricain par la CPC. Les auteurs de ces crimes doivent être recherchés, arrêtés et punis conformément à la loi. Il n'y aura pas d'impunité ni de répit pour les auteurs de cette guerre déclarée au peuple centrafricain. Je voudrais vous réaffirmer qu'il n'y a pas de paix possible si la justice n'est pas rendue aux victimes. Le gouvernement de la République emploiera tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs regroupés au sein de la CPC. Le peuple centrafricain a trop souffert. Le sang du peuple a trop coulé. Il est temps de mettre définitivement fin à cette spirale de violence aveugle. Quelle que soit l'issue du scrutin présidentiel, j'agirai jusqu'à la fin de mon mandat pour vous protéger et protéger notre pays contre les démons de la haine, de la méchanceté, de la rancœur et de la prédation.
Voilà, c'était Faustin Kantouadéra dans l'émission Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Cette fermeté s'explique par le limogeage de quatre principaux leaders de groupes armés, à savoir Sidiki Abbas de 3R, Ali Darassa de l'UPC, Maxime Okom de Zantibalaka et Mamad Al-Khatim du MPC. N'est-ce pas que le président de la République s'est désormais habillé en chef de guerre pour la défense de la patrie, M. Beniga? Pour tout le monde.
Je l'ai
Vous
dit
avez 2 minutes 30 secondes.
Oui, je l'ai dit ici que la guerre ne se décrète pas. Une fois qu'on décide de faire la guerre, il faut la faire. Et donc, limoger ces groupes armés, c'est le vœu de la population, c'est le vœu du GTSC dont je porte la parole. C'est pourquoi je dis c'est à saluer. Et moi, je me réjouis parce que ça fait presque 2 ou 3 ans que j'appelle au limogeage de ces leaders des groupes armés. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, ça a été fait. Et je me répète malheureusement, mieux vaut tard que jamais. Mais je saisis l'opportunité pour dire ici que dans le discours du chef de l'État, il parle de la recherche des auteurs, des co-auteurs, des complices. C'est intéressant. Mais il ne faut pas faire l'amalgame parce que j'ai comme impression, et selon les échos qui me sont parvenus, il y a un amalgame qui se fait parce qu'il y a une sorte de chasse aux sorciers qui s'organise aujourd'hui. Il faut que la recherche des auteurs, des co-auteurs, des complices soit en respectant la liberté des Centrafricains, ça c'est d'un, en tenant compte de la neutralité de ceux qui peuvent être du point de vue clanique, du point de vue tribal, proche des responsables de la CPC. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas parce que je suis le petit frère de tel et que parce que tel est dans la rébellion et que je suis automatiquement associé à la rébellion. Et donc, parce que si on ne fait pas attention, il y a un autre risque. Et je l'ai déjà dit, il y a certaines personnes qui me reprochent en disant que non, tu dis qu'on va vers la guerre civile et ces personnes me disent qu'on est déjà dans la guerre civile. Je crois que les germes d'une guerre civile sont présents en République centrafricaine et il faut faire très attention. La chasse aux sorcières, il faut l'éviter. Si on ne fait pas attention, on va entrer droit dans une guerre civile et je pense que c'est la Centrafrique qui va.
Alexis Ndouyabela, je rappelle que vous êtes conseiller politique du Premier ministre. Quel commentaire faites-vous rapidement de cet extrait du discours du président de la République?
Non, le chef de l'État voulait dire par là, il s'adressait au peuple centrafricain en disant, en reprenant un peu toute la formule biblique, il y a un temps pour tout sous le soleil. Bon, je ne partage pas l'avis de Beninga tout à l'heure. Il disait non, bon, il faut peut-être. Voilà. Le chef d'État n'est pas fermé. Au dialogue, ce que je voulais dire tout à l'heure. Il n'est pas fermé. Mais en avant. Mais si on veut débattre, de quel sujet doit-on débattre? Lorsqu'on revendique la concertation avant les élections, mais on revendique la concertation pour débattre de quoi? C'est ça le problème. Le chef de l'État n'est pas contre un débat. Je veux, il faut qu'il y ait la concertation permanente. Bon, la démocratie, c'est le gouvernement, la parole, la discussion. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Et je le disais tout à l'heure, il y a un temps pour. Le chef de l'État s'est donné avec le gouvernement, s'est donné le temps de discuter, de dialoguer. Bon, le temps pour lui également, avec son gouvernement, d'assurer ses arrières. On ne peut pas faire la guerre sans les armes, on ne peut pas faire la guerre sans les hommes. Je crois que là, il y a un temps pour tout sous le soleil, c'est ce qu'il faut retenir du discours du chef de l'État. Maintenant, le temps. Il y a beaucoup de dialogues ont été organisés en République centrafricaine. Et bien maintenant, le temps de dialoguer est passé. Donc, maintenant, c'est une décision. Les décisions vont tomber et au besoin, bon, il y aura des enfants. Non, il a même encouragé, félicité. Et puis, c'est l'occasion, félicité nos forces armées. Qui maintenant, on a quand même des contingents qui peuvent. Avant, il n'y avait pas de militaires à Obo. Il n'y avait pas de militaires. Bon, vous voyez, il y avait. Enfin, le programme de sécurité a commencé depuis. Si on a nommé des Abbas Sidiq, etc., c'est dans l'esprit de l'accord de faire respecter les termes de l'accord en tant que chef de militaire de l'Ouest, du Nord. C'est eux qui devaient contribuer. Vous l'avez constaté, manifestement, ils n'ont pas respecté. On a même créé des forces USMS à Bouar, etc. Mais tout ça, là, c'était pour faire en sorte que certains soient récupérés dans l'armée et d'autres, bon, devaient être vaqués à d'autres occupations. Oui. Alors, c'est la politique qui avait été. Mais malheureusement, vous savez, nous sommes des êtres humains. L'homme n'est pas parfait. Si je prends mon appareil, je vous filme, vous allez changer de comportement. En un instant T. Pourtant, tout à l'heure, on discutait en régulier. Et donc, l'homme n'est pas un être facilement qu'on peut maîtriser.
Oui, effectivement, je reste avec voilà. Vous. Donc, je reste avec vous, monsieur Ndouy.
D'un moment à l'autre, il peut changer de comportement. Et puis voilà.
Donc, il peut changer de comportement.
Pendant que le gouvernement est en train d'organiser pour qu'on aille progressivement au désarmement, etc., ouais, il y a eu ce revirement de situation.
Oui, monsieur Ndouy Abela, je reste avec vous. C'est aujourd'hui, on a constaté le limogeage de ces groupes armés, de ces leaders de groupes armés. Mais maintenant, il faut une action pour accompagner cette mesure qui a été prise par le gouvernement, par le président de la République. Mais c'est quoi ce que nous pourrons espérer demain?
Il a annoncé. Déjà, ça commence par les décisions et limogeage. Et puis, bon, il y a poursuite, il faut les traquer. Ce qu'on l'a dit tout à l'heure, empêcher le peuple centrafricain d'aller exprimer, d'aller désigner, c'est extrêmement grave. Et ces gens qui se sont engagés dans cette voie ne doivent pas rester impunis. Et donc là, même, il y a eu des déclarations, la société civile. Les universitaires, ils se sont levés pour dire non, il faut. Parce que la Constitution interdit l'accession au palais de la Renaissance par la voie des armes. Pour y aller, la seule voie de salut, c'est le suffrage universel. Donc si on s'organise en convention pour aller, on tombe manifestement sous le coup de ce qui est prévu par le texte. Donc politiquement, il fallait montrer au peuple. Alors là, ce n'est pas trop tard, M. Beninga.
Si Beninga
dit que c'est un peu trop tard, non. Maintenant, le temps est venu pour frapper. Et donc, il y a limogeage et puis d'autres mesures.
Va s'accompagner.
Non, jamais trop tard de bien faire.
Oui, je vous en prie, M. Nambélé, sur le discours de fermeté du chef de l'État vis-à-vis de ces groupes armés sur le plan gouvernemental aujourd'hui.
Bon, déjà, je veux dire au conseiller du Premier ministre que le dialogue ne doit jamais s'interrompre. Vous voyez, la démocratie est une culture. Moi qui vous parle, nous sommes les héritiers de la démarche politique du président Patassé, qui a toujours dialogué. Donc on ne peut pas dire que le dialogue, il faut arrêter de dialoguer. Vous voyez Nelson Mandela qui a fait 27 ans de prison quand il est sorti, il n'a pas dit je ne vais pas dialoguer avec ceux qui m'ont mis en prison, la privation pendant 27 ans. Donc la démocratie, être démocrate est une culture. Je pointe pas du doigt, mais je dis simplement il faut avoir une culture démocratique pour comprendre ça. Alors, moi je me félicite que le chef de l'État soit ferme aujourd'hui. Je vais vous dire, quand il a prêté serment, je fais partie des gens qui se sont rangés, on s'est tu pendant 5 ans, en disant, le chef de l'État a dit, je monte le chemin, je suis dans la vérité, vous devez me suivre. Il a été élu, on s'est tu pendant 5 ans pour voir là où il nous amenait. Mais aujourd'hui, je constate malheureusement que ceux avec qui il a signé les accords de Khartoum, n'est-ce pas, entérinés à Bangui, mais l'ont trompé. Donc aujourd'hui, la question de se dire, la démocratie, être démocrate est une culture. On attend les résultats des élections, n'est-ce pas? Le chef de l'État l'a dit. Et moi, j'ai relevé politiquement cet aspect de dire, quelle que soit l'issue des élections. Donc le chef de l'État, dans cette démarche, se dit, c'est possible aussi qu'il perde les élections. J'espère qu'on s'est compris.
Et allez-y, je vous écoute.
Non. Mais moi, ce qui est important, c'est que, vous voyez, nous avons la Centrafrique en partage. Nous devons léguer un pays à nos enfants. Tâchons de faire en sorte que ce pays soit stabilisé. ceux qui viennent nous aider aujourd'hui, je pense qu'ils mettent le curseur à un niveau tel qu'ils n'aident pas la République centrafricaine, n'est-ce pas ? Je veux citer la MINUSCA. Ils ne nous ont pas aidés, ils n'ont pas sécurisé les acteurs du processus.
Quelqu'un a échoué.
N'est-ce pas ? Ils n'ont pas sécurisé les acteurs du processus, ils ont sécurisé quelques endroits du processus électoral. Monitoring d'échec. Voilà ce que nous, on veut dire. Et le candidat Sylvain Patassé fera un point de presse, n'est-ce pas, d'ici demain, après-demain, pour dire notre position. Mais je peux dire ici que nous, nous sommes des patriotes. Nous ne voulons pas la prise de pouvoir par les armes.
Voilà, Monsieur Carle Blaguet, sur la fermeté de chef de l'État désormais, qui demande que la justice soit faite pour que la République soit respectée.
Effectivement, il faut de l'autorité, il faut justement justice comme socle de la démocratie pour le bon fonctionnement de la République. Mais de deux, je pense que le chef de l'État, pour décrypter son discours du 31 décembre 2020, à travers ce discours, l'accord de Khartoum est mort. Si déjà une grande partie des signataires se sont coalisés contre les institutions de la République, il revient au chef de l'État de voir avec les garants et les facilitateurs la dissolution de cet accord et maintenant d'intégrer toutes les forces vives de la nation afin de moduler ou de modeler justement un accord conforme à l'actuelle réalité, au contexte justement. Je pense qu'il est temps, à commencer par le Premier ministre, parce que c'était lui qui avait conduit cette délégation à Khartoum. Il va falloir revoir tous les contours en incluant les forces vives de la nation et les partenaires garants et facilitateurs.
Merci beaucoup. On tend vers la fin de ce débat politique. 30 secondes à vous. Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui parler de la mort de l'accord de Khartoum ou pas, monsieur Paul Cressan Bénégal?
Non, 30 secondes. L'accord de Khartoum est mort, on vient juste de constater. Les gens viennent juste de constater, mais il est mort depuis belle lurette.
Mais, même question à vous, monsieur Alexis Diouyabela, conseiller du Premier ministre.
Juridiquement et politiquement, l'accord n'est pas mort, puisque le chef de l'État a posé, le gouvernement a signé, le gouvernement n'a pas dénoncé cet accord. Je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs parties se sont associées pour signer un document. Quelques-uns se sont retirés, mais les autres sont encore là. Puis il y a les partenaires. Est-ce que les garants ont dit, bon, nous on dénonce également l'accord, on ne veut pas?
Non, pour les garants, je ne suis pas d'accord, avec toi. Si, pour les garants. Non, pour les garants. Les garants ne font pas partie des éléments clés de l'accord.
Mais ils ont signé.
Qu'ils soient là ou pas, l'accord ne concerne que les deux entités. Voilà. Le gouvernement d'une part et les groupes armés d'autre part. Que les garants se retirent ou non, non, ça n'a pas d'impact sur la valeur juridique de l'accord.
C'est une convention qui a été signée par des parties entre le gouvernement et les groupes armés.
Justement.
Et puis,
justement, les signataires, les garants ne sont pas concernés.
Est-ce qu'on peut évoluer la présence des garants qui avaient apposé également leur signature?
Oui, mais quelle est la valeur juridique de leur signature?
C'est une convention.
Le débat est important à ce niveau, la valeur juridique de leur signature.
Mais une convention réunit plusieurs parties.
Je suis entièrement d'avis, mais ils ne font pas partie. Quand vous prenez le préambule, c'est entre les groupes armés d'une part et le gouvernement d'autre part.
Mais s'ils n'étaient pas partis, ils ne signaient pas.
Merci beaucoup, monsieur.
L'accord de Khartoum n'est pas mort, elle est encore là, vigoureusement.
L'accord de Khartoum.
Le gouvernement qui l'a signé, l'a pas encore. On va continuer à appliquer l'accord avec ceux qui sont restés. Je disais tout à l'heure, 14, au moins 6 simplement. On dit, bon, il y en a qui. Est-ce que lorsqu'ils ont signé l'accord, ils avaient dit, il y en a qui sont des.
Vous avez dit l'accord de Khartoum n'est pas mort.
L'accord
de Khartoum est encore vivant.
Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Ceux qui sont restés dans l'accord, on va continuer. Vous voyez, il y a un groupe.
Est-ce que vous voulez me donner la parole puisque vous avez terminé votre temps? 30 secondes.
Il a demandé même à la CPC de regrouper, de revenir à l'accord, à le partenariat.
D'accord. Donc, selon vous, l'accord de Khartoum est encore vivant.
Survit encore, quel que soit le retrait.
L'accord de Khartoum. Merci beaucoup. Oui. Je vous retire la parole. Oui, monsieur Nambélé, 30 secondes. Est-ce que l'accord de Khartoum est mort ou pas? La même question.
Aujourd'hui, on va dire que c'est un accord à minima, parce qu'il y a une partie de ceux qui ont signé l'accord de Bangui, négocié à Khartoum, signé à Bangui, j'insiste là-dessus, se sont retirés. Et aujourd'hui, il y a une résurgence des groupes armés qui ont signé cet accord, qui se sont mis dans ce qu'on appelle le CPC, qui menace la stabilité de notre pays, n'est-ce pas ? Donc moi, je constate simplement que c'est de la responsabilité de chef de l'État de régler ce problème.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui, le tout premier de l'année 2021. Nous avons débattu de la mort ou pas de l'accord de Khartoum.
Il ne faut pas le dire, l'accord n'est pas mort. Enfin, je l'ai dit juridiquement, l'accord n'est pas mort.
On a terminé le débat, monsieur. Je suis en train de clôturer. C'est une question que nous avons posée et vous avez dit, l'accord n'est pas mort, Paul Cressan Bénégal dit, l'accord est mort. Monsieur Carle Blaguet dit, l'accord est mort. Vous avez dit, Donc, nous sommes dans un débat contradictoire et c'est la fin de ce débat. Nous avions invité autour de cette table Monsieur Karl Blaguet, observateur de la vie sociopolitique de Centrafrique. Merci d'être venu, Monsieur Blaguet.
Merci Armando.
Merci à vous, Monsieur Paul Cressan Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC. Merci pour votre participation.
Merci à vous aussi.
Monsieur Alexine Duyabella, conseiller politique du Premier ministre, merci d'avoir préparé
merci
ce rendez-vous.
Merci beaucoup pour ce premier débat de l'année 2020. Je suis très content et prochainement, il n'y a pas de problème. Je suis entièrement disposé à venir débattre avec tout le monde. Et avec monsieur... plaisir, hein, avec le frère que je connais, je découvre aujourd'hui, Nambélé, hein, qui est de Mel, de
Centrafrique Nouvelle-Élan. Centrafrique a besoin de prendre de l'élan.
Et puis bon, mon compatriote également.
Et monsieur Olivier Nambélé, porte-parole du candidat Sylvain Patassé du parti CAN Centrafrique Nouvelle-Élan. Monsieur Nambélé, merci aussi à vous.
Merci à moi de vous remercier de m'avoir invité pour ce premier débat de sur Nekeluka.
Merci beaucoup à la partie technique. C'était le service de Gabriel Trésor et Némati. J'ai bénéficié de l'appui technique de Claire Ndombe Assamba, de Stéphane Flemalé. Rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Au revoir.
La Corée a le